Radio Grand Ciel présente D'art et d'histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Philippe Siguret, inspecteur général honoraire des monuments historiques, archiviste, paléographe, histoire du Perche. Philippe Siguret est également écrivain, d'abord sur Paris, de très beaux sujets, mais aussi sur le Perche également, qui n'a aucun secret pour lui. Philippe Siguret, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Je sais que vous écrivez un ouvrage sur l'église Saint-Hilaire, mais vous avez déjà donné une conférence sur cette belle église de Nogent. C'est pourquoi j'aimerais bien que vous évoquiez pour nos auditeurs la christianisation du Perche et aussi cette église Saint-Hilaire à Nogent-le-Rotrou. Alors, christianisation, voilà le maître mot que j'aimerais que vous développiez dans ce, pour nos auditeurs.
Bien, effectivement, sous la direction de M. l'abbé Rambure, un certain nombre de personnes, historiens, amateurs d'art, se sont réunis pour écrire un petit volume spécialement consacré au renouveau de l'église Saint-Hilaire, puisque après 17 ans de fermeture au culte, elle a été réhabilitée en collaboration avec la ville de Nogent, et maintenant, elle, de nouveau, c'est une paroisse vivante à l'intérieur de Nogent.
Oui, je sais d'ailleurs que vous êtes en train d'écrire un autre livre avec donc plusieurs personnes sur cette église, et je crois qu'il y a des choses très nouvelles que vous nous apprendrez, et j'espère bien que vous reviendrez pour une émission pour justement évoquer cet ouvrage qui paraîtra bientôt, je suppose.
Alors, l'église Saint-Hilaire est citée, la plus ancienne citée par Nogent dès 1031. Donc, elle existait déjà en 1031. Et elle avait une particularité, comme elle est construite sur la rive droite de l'Huisne, à l'époque, elle n'appartenait pas au diocèse de Chartres, mais elle appartenait au diocèse de Sées. Et cela amène à parler de l'évangélisation du Perche,
oui,
et qui débute vraisemblablement dans le courant du IVe siècle, puisque les parties forestières de l'ancienne Gaule sont évidemment celles qui ont tardé le plus à être christianisées, d'où ce qui est bien connu, que le mot paganus désigne à la fois le paysan et le païen. Alors, ce n'est que vers 350 qu'un premier évêque venant de Sens est nommé à Chartres, et il s'intéresse à un culte qui est très ancien, qui avait été certainement un culte druidique en faveur d'une Vierge Mère,
oui.
Et aussitôt cet évêque se convertit ce culte en celui de la Vierge devant enfantée, et ce qui évidemment faisait une transition pour faire comprendre au peuple gallo-romain qu'une nouvelle religion était arrivée et qu'il fallait en comprendre les valeurs.
D'ailleurs, je crois qu'à Chartres, les Vierges ont toutes une inscription qui est Virgine Paritaru.
Voilà,
je crois que ça c'est significatif de Chartres, c'est
voilà,
bien ça.
Voilà, tout à fait significatif de Chartres. Mais en fait, pour pénétrer à l'intérieur des forêts et aux limites du diocèse, il faudra de pieux ermites qui quitteront les villes où il y avait évidemment une certaine bourgeoisie davantage cultivée et tout, qui connaissait, qui avait embrassé le christianisme. Et ces pieux ermites suivront les routes pour gagner la forêt et prêcher au peuple de la forêt, qui souvent était encore apeuré par les animaux, par toutes sortes de croyances païennes. Alors, dans le diocèse de Chartres, on sait que c'est notamment Saint-Lomer qui suivra la voie qui conduisait de Chartres à Sées, qui s'arrêtera à Belle-Omer, puis au pas Saint-Lomer, et enfin fondera un monastère à Moutier-au-Perche. Mais il y a surtout quatre ou cinq ermites qui sont sortis de l'abbaye de Missy, près d'Orléans, et qui sont sous la direction de l'un d'eux, Saint-Avit, vont venir dans le Perche. Alors, il y a Saint-Calais, Saint-Avit, Saint-Ulphace, Saint-Bomer. Ces noms nous sont familiers puisque ces ermites ont fondé des communautés qui sont à l'origine de paroisses encore existantes et réunies maintenant d'ailleurs sous le nom de Saint-Lubin du Perche, puisque Saint-Lubin lui-même fut un chartrain qui avait gagné la forêt de Charbonnières, puis Saint-Lubin des Infons, où les des fontaines sacrées étaient honorées depuis longtemps, et là il se fera une grande réputation au point qu'on viendra le chercher pour être abbé de Saint-Romain de Brou. Puis ensuite, il fut évêque de Chartres dans les années 560-567. Voyez.
Mais en fait, c'était quand même Potentien et Savinien qui étaient venus en premier.
Vers 360.
Voilà, oui, c'est ça.
Et alors, du côté sagien, c'est-à-dire du côté de C, il faudra attendre longtemps également, puisque la première présence chrétienne connue est celle de Sainte Sérone, qui s'installe près de Mortagne, où elle accomplit beaucoup de miracles, autour de Fontaine également. Et c'est elle certainement qui commencera à christianiser toute cette partie profonde, en quelque sorte, et assez éloignée du chef-lieu, C, ou M d'ailleurs, les évêques résident dans l'une ville, dans l'une des deux villes, et le pays prendra le nom de Yémois, si bien que à l'origine, Mortagne, Belém, et même les environs de Nogent, étaient situés en Yémois et non en pays chartrain.
Oui, c'est ça. En fait, Nogent ne participait pas du tout à Chartres.
Si, pour sa partie rive gauche.
Voilà,
sur la partie rive gauche.
Ça, oui.
Alors, en 1031, dans Nogent, en fait, on sait que dès les années 975, au moment de la lutte des comtes de Chartres contre les envahisseurs normands, qui auraient bien voulu s'installer à demeure dans la ville de Chartres, ils l'apprendront d'ailleurs une fois, et ils accompliront beaucoup de pilleries et de vols, et si bien que l'évêque de Chartres se fait lui-même, aux côtés du comte de Chartres, le défenseur de sa cité, et va recruter des hommes de guerre, etc., qui sont à l'origine des ce que l'on appelle aujourd'hui le Perchegué et le pays de Logny, par exemple.
Alors, c'est le moment aussi où l'abbaye Saint-Denis va être...
Alors, à Nogent, on connaît dès 975 un personnage du nom de Rotrou, qui peut-être descendait d'une des filles de Charlemagne, c'est pas totalement impossible. Et ce Rotrou va marier sa fille avec les vicomtes de Châteaudun, qui étaient de puissants fonctionnaires, officiers au service du comte de Chartres à Châteaudun, et ils vont s'installer à Nogent, où ils vont faire un important château. Mais ce sont encore des féodaux pillards, turbulents, et ils donneront beaucoup de mal à l'évêque de Chartres, au point que Saint-Fulbert se plaint d'eux, se plaint notamment de ce Geoffroy, en disant qu'il est possédé par le diable, qu'il craint ni Dieu ni votre excellence, écrit-il au roi de France, pour lui demander au roi de bien vouloir essayer de le débarrasser de ce personnage. En fait, ce Geoffroy... En 1031.
Il est quand même bien.
Ben, revient un peu à récipiscence, veut, sans peut-être son avenir menacé, surtout ses fins dernières très handicapées par la façon dont il avait agi vis-à-vis de l'Église. Il décide donc de se réconcilier avec l'Église de Chartres et au mois de juillet 1031, il fait venir à Nogent, sous les murs de son château, d'ailleurs il s'est précisé, il fait venir l'évêque de Chartres, son suzerain, le comte de Chartres, l'évêque du Mans, et quantité d'autres grands, pour solennellement fonder une grande abbaye sous la règle de Saint-Benoît. Et cette abbaye va immédiatement entamer la construction d'une grande église dont il reste encore une partie aujourd'hui. Mais également, il dote cette abbaye d'un certain nombre de biens matériels pour en assurer les revenus. Et l'un d'eux, le premier d'entre eux même, est le Saint-Hilaire.
Voilà.
Donc Saint-Hilaire de Nogent, évidemment, et qui comportait
C'est important de le dire parce qu'elle est antérieure à l'abbaye Saint-Denis.
Elle est antérieure à l'abbaye Saint-Denis. Elle a déjà son cimetière.
C'est ça.
Et ses dépendances fondées. Et ça correspond certainement à une tête de pont que le seigneur de Nogent avait déjà entamé de conquérir au-delà de Luynes, puisqu'il avait, il a franchi Luynes, et au-delà de Luynes, il possède déjà en propre, en quelque sorte, cette paroisse, et il donne d'ailleurs un autre lieu, qui est sans doute situé sur la même paroisse, qui s'appelle Les Viviers, aujourd'hui à Saint-Hilaire-sur-Erre.
Alors, Saint-Hilaire, ça, les deux.
Voilà, les deux. Alors Saint-Hilaire, qui est Saint-Hilaire ? C'est évidemment un des grands saints de l'époque gallo-romaine, de la fin de l'époque gallo-romaine. C'était un notable de Poitiers qui avait beaucoup lu, beaucoup étudié et qui avait été saisi par la grâce et notamment avait choisi de combattre l'arianisme. L'arianisme était une religion plus ou moins dérivée des religions de Moyen-Orient, mais qui ne reconnaissait pas la divinité du Christ.
Oui.
Donc c'était, il ne reconnaissait pas la divinité du Christ et il ne reconnaissait pas non plus le dogme de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, unis en une seule personne. Ça, c'était pas connu des Ariens. Donc Saint-Hilaire va s'occuper beaucoup de combattre cette doctrine considérée comme païenne par les chrétiens catholiques.
Oui.
Et il va pour cela recruter. Et parmi ses disciples, il va compter l'un d'eux, Saint-Martin, qui était à l'origine un guerrier originaire de la Hongrie actuelle, qui était entré au service de l'Empire romain, et qui un jour avait eu déjà la grâce en voyant un pauvre grelottant en plein hiver sans vêtements, et il avait partagé son fameux manteau, le manteau qui était le signe du militaire romain, et il ne lui en donne que la moitié, puisque l'autre moitié était censée appartenir à l'empereur. Alors il lui donne la moitié de son manteau. C'est évidemment une légende, sans doute, avec un certain nombre de points historiques qui courent sur Saint-Martin. Et Saint-Martin va connaître Saint-Hilaire, va aller à Poitiers, connaître Saint-Hilaire, et recevoir le baptême de Saint-Hilaire, et ensuite s'installer à Tours pour envoyer, former des missionnaires, des moines, et les envoyer à travers les pays non encore convertis. Et c'est certainement la raison pour laquelle il y a tant d'églises Saint-Martin autour de nos gens, puisque on compte Saint-Martin de Brunel, Saint-Martin de Bétonvilliers, Saint-Martin de Vieux-Bellem, Saint-Martin de Berduy même, Saint-Hilaire-sur-Erre, Saint-Martin du Douai, Saint-Martin de Nocé, enfin, etc. Donc, on voit que Saint-Martin de Bétonvilliers, on voit que Saint-Martin a été évidemment l'un des chrétiens admirés dans la région qui ont contribué à l'implantation du christianisme dans la région du Perche. Voilà ce que l'on peut dire de cette époque.
Oui, alors il va falloir attendre la fin du XIe siècle pour entendre parler d'une autre église qui va être justement dédiée à Notre-Dame.
Alors, par la suite, oui, il y avait sans doute, peut-être, on ne sait pas à quelle époque elle a été fondée, il y avait dans la partie, les murs du château, mais enfin, dans la partie basse de la ville.
Vers le bourg-le-comte.
Voilà, le bourg-le-comte, ce qui dit bien, évidemment, qui avait formé ce bourg. Et là, il va y avoir une église qui va être dédiée à Notre-Dame.
Oui, en fait, ça c'est près, pour nos auditeurs, c'est près de l'institution d'Elfeuille, cette église-là.
Voilà, elle était à peu près l'emplacement l'établissement de l'institution d'Hellefeuille. Cette église sera détruite à la Révolution et remplacée par la transformation de l'ancienne chapelle de l'hôpital, qui s'appelait Saint-Jacques de l'Aumône, en nouvelle église et nouvelle paroisse Notre-Dame après la Révolution, après 1801, après le Concordat de 1801. Mais ceci dit, entre-temps, l'abbaye de Saint-Denis, devenue d'ailleurs un prieuré de Saint-Père de Chartres, puis prieuré de Cluny, va prendre beaucoup d'importance. Il va se développer un bourg dépendant directement de Saint-Denis, et les moines, jugeant que les allées et venues des chrétiens fréquentant l'église Saint-Denis les dérangeaient dans leur prière, dans les différentes processions monastiques au cours des heures de la journée. Et donc, ils vont créer une paroisse à la porte de l'abbaye. Mmh. Cette paroisse, d'abord dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, retiendra finalement le nom de Saint-Laurent. Et les habitants du bourg Saint-Denis, c'est-à-dire qui dépendaient directement des moines de Saint-Denis, vont avoir pour paroisse Saint-Laurent, alors que la paroisse Saint-Hilaire de Nogent continue évidemment d'avoir la partie de la rive droite de l'Huisne vers la Messecelle, vers la Malerie.
Il faut bien comprendre que la rue Saint-Hilaire n'existait pas du comme elle est actuellement.
Non,
il faut absolument se mettre ça dans l'esprit pour mieux comprendre comment était cette église Saint-Hilaire.
Et le quartier autour de la place du marché devenue place Saint-Paul et de la rue Charonnerie devenue rue Villette-Gâtée, ces quartiers-là vont être rattachés à l'église Saint-Hilaire, au point que vers 1260, on sait déjà qu'il y a 420 paroissiens à Saint-Hilaire, mais quand on dit paroissien, en fait, c'est chef de famille. Donc, d'après les statistiques, ça forme à peu près une communauté d'habitants d'environ 1800 à 1900 personnes qui fréquentaient l'église Saint-Hilaire. D'ailleurs, pour faciliter cette fréquentation, Rotrou III va édifier un pont permettant de franchir l'Huisne pour que les habitants de ce que l'on appelait le Bourg Neuf puissent aller, évidemment, à l'église Saint-Hilaire pour toutes les cérémonies de la vie chrétienne.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Philippe Siguré et Philippe Siguré nous a expliqué comment s'était faite la christianisation de Nogent-le-Rotrou. Alors nous avons évoqué les différentes églises et maintenant nous en venons à Saint-Hilaire, ce sur quoi nous nous étions arrêtés. Alors Philippe Siguré, vous avez beaucoup travaillé sur l'église Saint-Hilaire. J'aimerais bien que vous évoquiez justement cette construction de cette église.
Alors, dans l'église Saint-Hilaire actuelle, la partie la plus ancienne est la partie basse du clocher, qui ouvre d'ailleurs sur l'église. Cette partie-là ne remonte pas à la fondation, enfin, dans les années précédentes 1031, mais certainement du XIIe siècle. Alors, elle comporte une voûte basse et qui s'ouvre sur la nef de l'église Saint-Hilaire par un grand arc. Alors, les chapiteaux, notamment, sont très caractéristiques du XIIe siècle. Et par la suite, cette base de clocher sera englobée dans le clocher neuf qui sera édifié au XVIe siècle. Alors, ensuite, pendant longtemps, on n'a pas su très bien dire de quelle époque était l'église Saint-Hilaire. C'est qu'au cours des âges, elle a été maintes fois sans doute agrandie, mais en tout cas remaniée.
Oui.
Et alors, il y a eu une période, à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, où on avait des vues grandioses de faire une église en pierre très importante. C'est la base du chœur actuel et une partie des fenêtres. Et pendant très longtemps, on n'a pas très bien su expliquer ces grandes fenêtres qui éclairent le chœur de Saint-Hilaire, de quelle époque vraiment elles étaient. C'est parce que une analyse très détaillée faite par nos amis Nicolas Gauthier, architecte des bâtiments de France, et Yves Lécroire, qui fut lui aussi inspecteur général des monuments historiques, eh bien, ils ont montré que, à différentes reprises, il y a eu l'idée de faire un chœur très élevé et ensuite, sans doute, de reconstruire la nef à l'imitation de ce chœur. Mais, en fait, on s'est aperçu assez rapidement qu'on n'en avait pas les moyens. Et le chœur, les constructions nouvelles du début du XIVe siècle se sont limitées au chœur. La nef actuelle, il est difficile de... Elle date du Moyen-Âge, mais elle a été refaite, la charpente actuelle, date de la fin du XVe siècle, et elle a été dotée du côté nord de bas-côtés qui... comme il donnait sur la voie principale, puisque le pont n'était pas là où il est aujourd'hui, mais il était beaucoup plus en amont par rapport à la rivière, il y a là une façade très décorée que l'on ne voit plus aujourd'hui puisqu'elle ouvre sur une ruelle sans issue. Et l'autre côté, donné sur le côté sud, donné sur le cimetière qui était au pied de l'église.
Mais...
Alors, au XVIe siècle, on a refait toute cette charpente de l'église, construit les chapelles du côté nord, et on en est resté là. Et on a fait, pour joindre le chœur gothique à cette grande église, un grand arc décoré qui forme la jonction entre les deux parties. Et c'est resté comme ça. Alors, il faut dire que l'église Saint-Hilaire, en plus, avait quelques difficultés, puisque à chaque fois que l'Huisne débordait, l'église Saint-Hilaire était inondée.
Oui.
On parle de certaines crues où il avait fallu aller à cheval chercher les saintes espèces dans le tabernacle qui était en voie d'être submergé. On sait aussi que les bases des piliers de l'église sont maintenant sous terre, parce qu'on a remblayé d'environ 50 cm pour essayer d'échapper aux plus grandes inondations. Et ça a été certainement un handicap en quelque sorte pour reprendre les travaux. Néanmoins, à la Renaissance, on a décidé de doter l'église d'un grand clocher. Alors ce clocher est assez nu dans ses étages bas. En revanche, à la partie supérieure, il y a une très belle balustrade pour entourer la chambre des cloches. Et au-dessus, on a encore dressé, au début du XVIIe, un campanile, ce qui rend cette tour, évidemment, très élégante.
Ouais.
Quoique, aujourd'hui, l'église paraît s'encaisser. C'est qu'en 1853, quand le chemin de fer est arrivé à Nogent, la municipalité de l'époque a décidé de créer un nouveau pont pour aller à la gare et pour gagner la route de Bellême aussi, qui avait été refaite sous Louis-Philippe. Donc, ce pont encaisse l'église.
Oui.
Il a fallu transférer le cimetière à la Fuie, là où il est aujourd'hui. Oui. L'église est un peu vue en contrebas maintenant.
Ah oui.
Ce qui nuit évidemment à son aspect tel qu'elle se présentait autrefois. Et il s'est trouvé vers, en 1867, un nouveau curé, qui avait, semble-t-il, réuni des moyens pour moderniser en quelque sorte l'église Saint-Hilaire. Alors, il a d'une part fait voûter en voûte de plâtre, mais extrêmement habile, extrêmement bien faite, imitant des voûtes gothiques, ce qui n'avait pas jamais pu être fait. Il a fait voûter l'église en style gothique. Et le chœur également a été voûté. Alors là, il y a quelque chose qui est... On a supprimé l'ancien retable qui a été vendu à l'église de Coulonges-les-Sablons et on a remplacé ça par un chœur avec un retable plus bas qui mettrait en valeur des vitraux dans les différentes lancettes du cœur. Il y a des vitraux avec du grand maître verrier Chartrain, oui, Lorrain, et sur un programme avec d'une part les sacrements et d'autre part les docteurs de l'Église et les grands personnages de l'Église. Et ce sont très beaux vitraux du 19e.
Oui, oui.
Et alors, ce qu'on ignorait encore jusqu'à une date récente, c'est que au-dessus de ce voûtement du cœur, qui date lui aussi des années 70, il y a tout l'ancien cœur qui est resté, mais qui évidemment n'est visible que dans les combles, mais qui explique l'élévation extérieure du cœur de Saint-Hilaire qui ne correspond pas à l'élévation intérieure. Ceci dit, l'ensemble de l'Église a été doté également de nombreuses statues, doté d'un chemin de croix, assez original, puisque c'est un chemin de croix en tôle, repoussé, c'est une œuvre tout à fait originale, doté également d'un orgue, acheté dans une église de Bordeaux, venu d'une église de Bordeaux, et l'ensemble, finalement, forme quelque chose de cohérent qui, maintenant que tout a été de nouveau nettoyé, les vitraux sont en passe d'être remontés là, quand il le fallait, parce qu'ils étaient en mauvais état, la guerre les avait quelque peu endommagés, malmenés, et l'ensemble forme un édifice religieux qui est maintenant encore le plus grand de nos gens et qui répond parfaitement à ce que l'on attend de ce genre d'édifice religieux.
Cette association a été vraiment très remarquable parce que grâce à elle, l'Église revit maintenant et on a pu l'ouvrir.
Absolument. L'évêque de Chartres est d'ailleurs venu pour cette inauguration en présence du préfet et du maire de Nogent-le-Rotrou. Et l'évêque d'ailleurs a ouvert aussi, non seulement évidemment, le rôle traditionnel de l'Église qui est de répondre au culte catholique, mais également la possibilité d'en faire un lieu culturel pour des concerts, puisque c'est un édifice qui répond pour la musique, qui est excellent. Et espérons qu'un jour, l'orgue fera de nouveau entendre sa voix pour accompagner éventuellement des manifestations.
Et d'ailleurs, il y a eu de très beaux concerts à Saint-Hilaire, et il y avait vraiment... c'était comble, l'église était vraiment... donc les gens, les Nogentais étaient vraiment heureux de retrouver une très jolie église à Nogent-le-Rotrou. Eh bien, un grand merci, Philippe Siguret. Je crois que nos auditeurs auront été heureux de comprendre comment d'abord s'était faite cette christianisation de Nogent-le-Rotrou, du Perche, et puis aussi de découvrir l'église Saint-Hilaire. Et j'espère que nombreux viendront maintenant dans cette église. Il y a une messe le dimanche à 18h. Et je vous en remercie, tous ceux qui ont été à la base du travail pour faire que cette église revive. Un grand merci, Philippe Siguret. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.
Yeah.